إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقرأ كتاب شرح منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخنا عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصير حفظه الله تعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى، وما زلنا في كتاب المواريث: إن كانت الفروض أقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب. Donc on poursuit inshallah ta'ala notre étude du livre Manhaj al-Salikin de l'imam Sa'adi rahimahullah, et donc on est toujours dans le grand chapitre concernant les héritages. Il dit ici l'auteur rahimahullah ta'ala, donc la semaine dernière on avait fini d'expliquer la question relative à ce qu'on appelle al-aoul. Al-aoul, donc une situation dans laquelle on a vu que la part totale, la somme des parts totales des héritiers est excédente par rapport à la base du problème. Donc on a une augmentation de la somme totale des héritiers, et du coup cela va provoquer, comme on a dit, la diminution de la part que va toucher chaque héritier. Vu que le nombre de parts augmente, du coup la somme que va toucher chaque héritier, elle va diminuer. On appelait ça donc al-aoul. Il dit ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, et donc à l'inverse de ce phénomène qui est l'aoul, on a le fait que l'furoud, c'est-à-dire les parts prescrites d'héritage, est limitée par Allah tabarak wa ta'ala, sont inférieures à la mas'ala. Là, c'est le contraire de l'aoul. C'est le contraire de Al-Aoul. Lorsque la somme des parts auxquelles ont droit les héritiers, elle est inférieure à la base de la mas'ala, la base du problème. Et il n'y a en plus pas d'a'asib. Il n'y a en plus pas d'a'asib. C'est-à-dire, l'a'asabat, on avait dit, c'est les personnes qui peuvent avoir droit à un héritage sans que Allah tabarak wa ta'ala n'ait limité ou délimité une part spécifique pour eux. Voyez, on avait dit les 6 parts spécifiques qu'Allah tabarak wa ta'ala a délimité dans le Coran al-Karim. Ce sont la moitié, le quart, le huitième, le tiers, les deux tiers, hein, et le sixième, le sudus. Donc l'asabat et tous ceux qui peuvent avoir droit à un héritage, mais Allah tabarak wa ta'ala ne leur a pas délimité une part spécifique telle que ceci part mentionnée. Donc, on a ici ce phénomène qui est que la part des héritiers, la somme totale des parts, elle est inférieure à la base de la mas'ala, et en plus, il n'y a pas de asib. Il n'y a pas de asib qui pourrait donc toucher l'héritage en tant que asaba. Taïeb. Fa hunak yushtaratu lahu shartan. Yushtarat li hadhihi al-mas'ala shartan. Al-awwal an la tastaghriq al-furudu al-mas'ala. والثاني عدم العاصب. Donc on a deux conditions ici pour que ce phénomène soit avéré. Première condition, أن لا تستغرق الفروض المسألة. C'est-à-dire il ne faut pas que la somme totale des parts des héritiers complète l'héritage. C'est-à-dire, il ne faut pas que la part totale des héritiers font qu'à la fin, il n'y a plus rien dans l'héritage. D'accord? Et deuxième condition, qu'il n'y ait pas de asib. Qu'il n'y ait pas de asib. فالورثة الذين يرد عليهم هم أصحاب الفروض على الزوجين. فعددهم سبعة أصناف. الأول البنت فأكثر، الثاني بنت الابن فأكثر، الثالث الأخت الشقيقة فأكثر، الرابع الأخت لأب فأكثر، الخامس ولد الأم فأكثر ذكرا أو أنثى، السادس الأم، والسابع الجدة أو الجد. عفوا الجدة أو الجدات هذا هو الصنف السابع الجدة أو الجدات. Donc ce phénomène qu'on va appeler الرد. D'accord? Donc le premier phénomène qu'on a vu la semaine dernière c'était العول. Là c'est الرد. Donc les héritiers qui vont pouvoir bénéficier de ce phénomène qui est الرد sont certains parmi Ashab al-Furud. Donc Ashab al-Furud, encore une fois, c'est ceux qui peuvent avoir droit à une part précise, délimitée par Allah tabarak wa ta'ala, qui sont, encore une fois, la moitié, le quart, le huitième, le sixième, le tiers ou les deux tiers. Taïeb. Naam. Hormis les deux époux. Donc ici, les gens de science, ou certains parmi eux, sont d'avis que l'époux et l'épouse ne sont pas concernés par ce phénomène qui est Ard. D'accord? Donc, ceux qui sont concernés par Ard parmi les Ashab al-Furud sont de 6, de 7, pardon, 7 catégories. La première, tout d'abord, El Bintu Fa'akthar, la fille. La fille, ou plus. D'accord? C'est-à-dire deux filles, trois filles, etc. La deuxième catégorie, la fille du fils. Il y en a la petite fille, mais du côté du fils, la fille du fils. Ou plus. Troisième, al-ukhtu shaqiqa, la sœur germaine, du même père et de la même mère. Ou plus. La quatrième, al-ukhtu li'ab, la demi-sœur côté père. Al-ukht li'ab, la demi-sœur côté père. Ou plus. La cinquième, les enfants de la mère. Donc un ou plus parmi les enfants de la mère, voyez, qu'ils soient garçons ou filles. Donc les demi-frères et les demi-sœurs du côté de la mère. Demi-frères, demi-sœurs du côté de la mère. La sixième, la mère. Et enfin, la septième, la grand-mère ou les grands-mères. D'accord? La grand-mère ou les grands-mères. Païen.
Et imaginons, il y a le mari meurt, mari se marie enfin, avec une femme et la femme meurt et avant qu'elle meure elle est avec le père d'une fille et après le père il se remarie et alors, du coup la femme c'est sa nouvelle mère ou pas?
Non, quand on dit la mère c'est la mère biologique. La mère biologique, taïeb. Est-ce que c'est clair? On parle de la mère biologique toujours. Non. De toute façon, la mère, elle, homme, c'est toujours la mère biologique. Taïeb. Sinon, on dira l'épouse du père. On ne dira pas la mère. On dira l'épouse du père. Non. وقال المؤلف رحمه الله رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه طيب فالرد ضد العول وهو زيادة في الأنصبة ونقص في السهام ويحصل الرد عندما تكون الفروض أقل من المسألة ولا يكون عاصب فإن الباقي يرد على أصحاب الفروض كل بقدر فرضه ومثال ذلك لو وجدنا بنتين وأما فقط فأصلح من ستة للبنتين الثلثان وهو أربعة وللأم السدس وهو واحد فيبقى واحد فينقسم المال على خمسة فيكون للبنتين أربعة الأخماس وللأم الخمس والمشهور عند الحنابلة أنه لا يرد على الزوج والزوجة مع أنهما من أصحاب الفروض قالوا لأنهما ليسا من ذوي القرابة واختار الشيخ السعدي رحمه الله صحة الرد على الزوجين لعدم الدليل على منعهما من الرد طيب donc dit l'auteur رحمه الله الفاضل donc الفاضل c'est ce qui va rester lorsqu'on va faire la somme totale des parts qu'ont droit les héritiers, il va rester encore des parts. Ça peut arriver, il va rester des parts. Taillé. Donc le reste de la somme totale des parts, elle va être restituée et donnée à tous ceux qui justement ont eu droit à ces parts. Parmi les Ashab al-Furud, on va leur donner à chacun proportionnellement à la part dont il avait droit. Vous comprendrez avec l'exemple, inshallah ta'ala. Donc, ar-raddou, ce phénomène, c'est le contraire de l'aoul. L'aoul, on l'a vu la semaine dernière. Ar-raddou, c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est l'augmentation de la part de chacun à cause de la diminution de la somme totale des parts. D'accord ? Donc on va restituer, on va donner le reste de ce qu'il reste, yani, de l'héritage. On va les donner proportionnellement à ce qu'ont droit les héritiers, ashab al-furud. À condition, encore une fois, qu'il y ait un reste, bien sûr, parmi la somme totale des parts, et à condition qu'il n'y ait pas de asib. Qu'il n'y ait pas de asib. D'accord ? Exemple. La personne meurt. Elle a laissé deux filles et une mère. Deux filles et une mère. Ici, on dit que la base du problème est de six parts. Pourquoi six parts? Eh bien, parce que les deux filles, du coup, elles ont droit aux deux tiers, thuluthan. D'accord ? Elles ont droit aux deux tiers, thuluthan. Naam. Et la mère, elle a droit au sixième. Donc lorsqu'on a deux parts comme ça, les deux tiers et le sixième, la base du problème est de six. Six parts. Donc les deux tiers de six, ça fait quatre. Et le sixième de 6, ça fait 1. Donc 4 plus 1, 5. Ça veut dire que les deux filles, elles prennent 4 parts. Et la mère, elle prend une part. Donc il reste une part. Il restera une part, parce qu'on a dit que la base du problème était de 6. Il restera une part. Taillé. Donc, comment on va procéder? Eh bien, on va partager ce part qui reste entre les deux filles et la mère de façon proportionnelle à ce dont ils avaient droit ou à ce dont elles avaient droit. D'accord? Donc, du coup, نقسم المال على خمسة. نقسم المال على خمسة. Donc on va, au lieu de diviser l'argent, l'héritage, en 6, on va le diviser en 5. On va le diviser en 5. Et du coup, les deux filles, au lieu d'avoir ici, yani, les deux tiers, elles auront droit à 4 cinquièmes. Ce qui est supérieur de ce qu'elles avaient droit au début. D'accord? La mère, au lieu d'avoir le sixième, elle aura le cinquième. Ce qui est supérieur à ce qu'elle avait droit au début. Imaginons que la personne a laissé 6 000 euros, c'est un exemple, hein, 6 000 euros. Donc à la base, on avait dit que donc 6 000 divisé par 6 parts, ça fait 1 000 euros. Une part, c'est 1 000 euros, du coup. Donc à la base, les deux filles, elles avaient droit à 4 parts, autrement dit 4 000 euros. La mère, elle avait droit à une part, c'est-à-dire 1 000 euros. Donc il aurait resté 5 000 euros. 4 000 plus 1 000, ça fait 5 000. Donc, il aurait resté 1 000 euros. D'accord? Ou il serait resté 1 000 euros. Taïeb. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la somme totale des parts à 5. Parce que 4 000 ou 4 plus 1, ça fait 5. Donc, du coup, les deux filles, au lieu d'avoir droit à 4 000 euros, elles auront droit à 4 cinquièmes, à 4 cinquièmes, ici, d'accord, des 5 000 euros. Des 5 000 euros. Naam. Et la mère, elle aura droit, au lieu d'avoir le sixième, elle aura le cinquième. Parce que tu fais donc 6 000 divisé par 5, ça fait 1200. 1200, d'accord? Alors qu'à la base, c'était 1000 euros. Donc 1200. Du coup, les deux filles, elles ont droit à 4, ça fait 1200 fois 4, ça fait 4800. Alors qu'à la base, elles avaient droit qu'à 4000 euros. Là, elles auront 4800. D'accord? 4800. Et la mère, elle aura droit à 1200. Alors qu'à la base, elle avait droit qu'à 1000 euros. Vous voyez? Donc là, on voit que la somme totale des parts va diminuer. Mais ça va faire que la part de chacun, elle va augmenter. On appelle ça « rad ». Ce qui est connu chez les Hanabila, l'école Hanbalit, est que l'époux et l'épouse ne sont pas concernés. L'époux et l'épouse ne sont pas concernés par Arad. Bien que ce soit bien qu'ils fassent partie des Ashab al-Furud, des gens qui ont droit à les parts de Furud, comme on a mentionné. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ne font pas partie des proches de la personne. Ils n'ont pas de lien de sang avec la personne. D'accord? Le mari ou l'épouse. Taïeb. Donc il y a une divergence quand même. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, lui, il est d'avis qu'il est permis de faire arad également pour la femme et le mari, car il n'y a pas de preuve interdisant cela. Wallahu a'lam. Taïeb. Wa mithal akha, wa bint, wa bintu ibn. بنت وبنت ابن فمسألة من ستة وترد إلى خمسة للأم واحد ولبنت الابن واحد وللبنت ثلاثة وعلى هذا فللأم الخمس ولبنت الابن الخمس وللبنت ثلاثة أخماس وهكذا. Un autre exemple dans lequel il y a dans lequel il y a ce phénomène de rad, la personne laisse une mère, une fille et une petite fille du côté du fils. Une mère, une fille et la fille de son fils. Ici, la base de la mas'ala du problème, elle est de 6 aussi. Elle est de 6 et elle va diminuer à 5. Pourquoi? Parce que la mère, elle a droit à une part sur 6. Elle a droit au sixième. Donc, elle a une part sur 6. La fille du fils, elle a droit aussi au sixième. Ce qui fait une part sur 6. Ce qui fait 2 pour l'instant. La fille, elle a droit à la moitié, nesf, de 6. C'est-à-dire, la moitié de 6, 3. Donc, 3 plus 1, 4, plus 1, 5. On voit que sur 6, il restera une part. Il va rester une part, donc, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette part-là? Est-ce qu'on va la laisser comme ça à personne? Non, on va la partager entre ces 3 personnes, qui sont la mère, la fille et la fille du fils, proportionnellement à ce qu'ils ont droit, à ce qu'Allah tabarak wa ta'ala leur a donné. D'accord? Donc du coup, la mère, au lieu d'avoir droit au sixième, elle aura droit au cinquième. Ce qui est plus. D'accord? Le sixième de quelque chose, c'est inférieur au cinquième. D'accord? La fille du fils également, au lieu de toucher uniquement le sixième, elle va toucher le cinquième, ce qui est plus. Et pareil pour la fille, qui avait droit à la base à la moitié, là, elle a droit à plus que la moitié, c'est-à-dire 3 cinquièmes. D'accord? C'est-à-dire 3 cinquièmes qui est plus que la moitié. Non. Wa hakada. Tayyib. Non. ثم قال فإن عدم أصحاب الفروض والعصابات ورث ذوو الأرحام وذوو الأرحام هم أقارب الميت الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب وهم 11 صنفا ولد البنات وولد الأخوات وبنات الإخوة وولد الإخوة من الأم والعمات من جميع الجهات والعم من الأم والأخوال والخالات وبنات الأعمام وأب الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى بهم والدليل على توريث ذوي الأرحام قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولحديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. Puis dit l'auteur, رحمه الله تعالى, ici il n'y a ni أصحاب الفروض. La personne meurt et elle laisse derrière elle ni quelqu'un qui peut avoir droit à un fard, à une part d'héritage qu'Allah il a délimité, ni un asib, une personne qui a droit à un héritage sans part restreinte délimitée. Eh bien, on va faire hériter qui Zawul Arham. Zawul Arham. D'accord? Ceux qui ont un lien familial avec la personne. Donc, ça c'est dans la terminologie. Ici, de la jurisprudence, Zawul Arham, ce sont les proches du mort, donc les proches qui ont un lien familial avec lui, qui ne pouvaient pas hériter à la base, ni par une part, yani délimitée par Allah tabarak wa ta'ala, l'une des 6 parts que l'on a mentionnées, ni bitarsib. Il ne fait pas partie non plus des gens qui sont asabat, qui peuvent hériter d'une part qui n'est pas délimitée. Voyez. Donc ceux-là, Zawul Arham, ils sont de 11. Catégorie. On a l'enfant des filles, l'enfant des filles, l'enfant des sœurs, les filles, yani des frères, Tayeb, ou l'enfant des demi-frères du côté de la mère, ou les tantes yani maternelles, ou l'oncle minal oum, donc le frère du père, mais du côté de sa mère. Le frère du père du côté de sa mère, le demi-frère du père, yani, côté maternel. Al-akhwal, les oncles maternels. Wal-khalat, les tantes maternelles. Les filles des oncles maternels. Le père de la mère. Le père de la mère. D'ailleurs, toutes les grand-mères, kullu jadda, toutes les grand-mères qui sont la mère, qui sont la mère du père de la mère. Donc admettons, la personne elle meurt, d'accord? Elle a une mère, puis elle a le père de sa mère, c'est-à-dire son grand-père, le père de sa mère, qui a lui aussi une mère, qui est toujours vivante. D'accord? Donc son arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère, qui est la mère du père de sa mère. Hein? En arabe, on dit « Kullu jadda adlat bi'ab bayna ummayn » Parce que le père, là, le grand-père, il est entre deux mères. Il est entre sa mère et son arrière-grand-mère. D'accord? Donc cette grand-mère-là, elle fait partie également des 11 catégories ici de Dhawil Arham. Ou alors, une grand-mère qui est donc la mère d'un père qui est plus haut que le grand-père. D'accord? Donc la personne, elle meurt. Elle laisse, par exemple, il y a son grand-père dont Tayeb, dont le père est toujours vivant, donc il a encore son arrière-grand-père. Et cet arrière-grand-père, il a une mère qui est toujours vivante. Donc son arrière-arrière-grand-mère, elle fait partie également des Dhawil Arham. Et tous ceux qu'on a cités là, et tous ceux qui ont un lien avec eux d'affiliation, Tayeb, de sang, eh bien, font partie des gens aussi de Dhawil Arham qui peuvent avoir droit à quelque chose s'il n'y a ni Ashabul Furud ni Asabat. Naam. Tayeb. Fayushtaratu irthuhum shartan. Al-awwal adamu wujud al-asaba. Wal-thani adamu wujud Ashabul Furud siwa al-zawjain. Donc il faut deux conditions ici pour que Dhawil Arham peuvent avoir droit à un héritage. La première condition, qu'il n'y ait pas de asabat, encore une fois. Qu'il n'y ait pas de asabat. Et la deuxième condition, qu'il n'y ait pas de ashab al-furud, hormis la femme et le mari. Hormis la femme et le mari. Taïb. Wa siwa al-madhkourin, wa hum, yani dhabu al-arham, ha'oula, siwa al-madhkourin, yunazzalouna manzilata man adlaw bihi. أي يقرب البعيد منهم حتى يجعل بمنزلة الوارث فيجعل له نصيبه مثاله أن تنزل بنت البنت منزلة البنت وبنت الأخ منزلة الأخ والعمة منزلة الأب والخال والخالة منزلة الأم وهكذا روي ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم donc ذوي الأرحام on les a mentionné tout à l'heure il dit c'est l'auteur رحمه الله تعالى ce sont tous ceux qui n'ont pas été mentionnés auparavant parmi Ashab al-Furud et Al-Asabat. Et il dit ici, donc, au cas où on devrait donc leur donner une part d'héritage, parce qu'il n'y a ni Ashab al-Furud ni Asabat, eh bien, on va leur donner la part qu'on droit à la base ceux à qui ils sont rattachés. Mais qui ne sont pas présents. C'est-à-dire, on va faire rapprocher ceux qui sont loin, ceux qui sont loin, parmi les Dhawil Arham, on va les rapprocher, on va les mettre au niveau de l'héritier auquel ils sont attachés. Et on va leur donner la part de cet héritier-là. Par exemple, Bint, El-Bint. Bintul bint. D'accord? La fille de la fille. On va la mettre au niveau de la fille. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir toucher la part de la fille. D'accord? On pourra toucher la part de la fille. Bintul akh. Bintul akh. La fille du frère. Partie des awil arham. Donc si elle, si on la fait, on la met au même niveau, on la mettra au même niveau que le frère. D'accord? On la mettra au même niveau que le frère. Pourquoi? Parce que c'est la fille du frère. La tante maternelle, donc la sœur du père, si on la fait toucher, une part d'héritage, la sœur du père, on la mettra au même niveau que le père. Al-amma, c'est ça, la tante paternelle. D'accord? Al-amma. Al-khal ou al-khala. Donc l'oncle maternel et la tante maternelle, on la mettra du coup au même niveau que la mère. Pourquoi? Parce que c'est le frère et la sœur de la mère. Wa hakadha. Et cela a été rapporté par certains parmi les compagnons. Radiallahu anhum. Thumma qala al-mu'allif rahimahullah. وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ يُصْرَفُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ طيب. Puis dit l'auteur, celui qui n'a laissé aucun héritier, ni parmi Ashab al-Furud, ni parmi les Asabat, ni parmi Zawil Arham, personne. Son argent ira au trésor public. Son argent ira dans la caisse du trésor public, de l'État, du gouvernement, voyez, musulman. Alhamdulillah. Et cet argent-là servira donc à l'intérêt général des musulmans ou à l'intérêt spécifique. Voyez. Yani, idha lam yujad sababun lil irth la bi nikah wala bi wala wala bi nasab fayakunu al mal al muwarrath لبيتي مال طيب لبيتي مال المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام أنا وارث من لا وارث له أنا وارث من لا وارث له والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه وإنما يرث لبيت المال donc il dit ici celui qui n'a pas d'héritier, son argent ira au trésor public. Autrement dit, s'il n'y a aucune cause qui fait qu'une personne puisse hériter, telle que le mariage, donc l'époux ou l'épouse, telle que el-wala, c'est par rapport au maître qui a affranchi son esclave. Hein, on a vu que le maître avait droit à un héritage de l'esclave s'il fait partie de ceux ou de celui qui l'a affranchi. Naam. Wala binasab. Donc il n'y a personne également qui ait un lien familial qui pourrait faire qu'il puisse hériter du défunt. L'argent, il va aller où? L'argent qu'il a laissé le mort, il va aller au trésor public. Pour l'intérêt général des musulmans ou l'intérêt spécifique. Et la preuve, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, je suis l'héritier de celui qui n'a pas d'héritier. Je suis l'héritier de celui qui n'a pas d'héritier. Et il est connu que le prophète, quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il lui va prendre l'argent pour lui, mais il prendra l'argent du coup pour l'intérêt général des musulmans, c'est-à-dire le trésor public. Ça y est ? Donc l'argent ira au trésor public. Naam. Et cet argent-là, il sera fou, fil masalih al-ama ou al-khassa. Il ira pour l'intérêt général ou l'intérêt spécifique. Ça y est ? Naam. فمن مصالح المسلمين العامة كالطرق والمستشفيات والمدارس ونحوها والخاصة مثل إعطاء الفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين ونحوهم exemple d'intérêt général hein, pour financer par exemple la construction de routes pour construire des hôpitaux pour construire des écoles, ça c'est pour l'intérêt général. Donc on va se servir de cet argent-là pour ces choses-là. Et concernant maintenant les intérêts spécifiques, on a par exemple, ben, tout simplement pour aider les pauvres, aider les orphelins, aider les nécessiteux, les veuves, et ainsi de suite. Non. وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة. طيب، فتسمى هذه الأمور الأربعة الحقوق المتعلقة بعين التركة. بعين التركة. في جلوتار رحمه الله تعالى، lorsque la personne meurt, son héritage son tarika, son héritage, ce qu'il laisse après lui comme bien matériel ou pécunier, sera lié à quatre huquq, à quatre droits. Quatre droits qu'on va mentionner, inshallah ta'ala. Et on va les mentionner dans un classement qu'il est obligatoire de respecter. Un ordre, un classement qu'il est obligatoire de respecter. Payez. Awwaluha mu'anu tajhiz. Mu'an التجهيز يعني تجهيز الميت من ثمن كفن ومؤنة تغسيله وأجرة حفر قبره ونحوها فتقدم على باقي الحقوق. Donc le premier droit qu'il est obligatoire de faire, de respecter et d'honorer une fois que la personne est morte et qu'elle a laissé donc quelque chose derrière elle, c'est les frais de traitement du corps, les frais qui seront donc entraînés par le traitement du corps, de ce qu'on va faire du corps de la personne qui est morte, comme par exemple le fait de d'acheter les linceuls pour donc l'habiller avant de l'enterrer, il y a ni l'envelopper par ce linceul avant de l'enterrer, les frais de lavage, c'est par exemple les personnes qui vont le laver, il y a ni demande à être payé, eh bien on va prendre l'argent du défunt pour les payer, pour creuser le trou, pour avoir une place au cimetière et creuser le trou. Il se peut qu'il y ait des frais, donc on va demander l'argent, on va plutôt prendre l'argent du défunt pour payer tout ça et pour financer ces choses-là. Taïeb, donc ce premier droit-là, qui est la préparation du mort, le soin du mort, du corps, du défunt, eh bien cela est pris de l'argent du défunt. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, après avoir utilisé l'argent du défunt pour faire tout ça, préparer son corps, le laver, creuser le trou, etc., le linceul et tout, et qu'à la fin il ne reste plus rien, eh bien il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien, ni pour les héritiers, ni pour les autres droits. D'accord? Ça y est. ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال فيقدم الدين على الوصية لحديث علي قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصين بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية أخرجه الترمذي وابن ماجه وعلقه البخاري وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف قال ابن حجر في تلخيص والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى والمراد بالديون الموثقة هي ما وثقت برحم أو كفالة ونحوهما والمرسلة ما خلت من التوثيق. Deuxième droit qu'il est obligatoire de respecter. Donc une fois que tu as financé, tu as payé tout ce qu'il fallait payer pour s'occuper du corps, enterrer le corps, etc., etc., tu vas donc, avant même de partager l'héritage entre les héritiers, tu dois respecter un deuxième droit. C'est quoi ce deuxième droit? C'est les dettes. Les dettes de la personne. Que ce soit des dettes qui sont muwathaqa ou mursala. On verra c'est quoi les dettes muwathaqa et les dettes mursala. Donc on va régler ces dettes, les dettes du mort, avec son argent, pris du capital qu'il a laissé derrière lui. D'accord? Donc, la priorité, encore une fois, c'est la préparation du mort, etc. Mais la deuxième priorité après ça, ce sont les dettes. Donc les dettes doivent être remboursées avant même le testament, c'est-à-dire le legs testamentaire. D'accord? Et avant même le partage entre les héritiers. Il y a les dettes. Et cela en vertu du hadith d'Ali, radiyallahu anhu, qui a dit, vous lisez certes ce verset de la sourate An-Nisa, min ba'di wasiyati yusina biha udayn, le sens rapproché du verset, après le legs testamentaire qu'elles ont laissé, ou une dette. D'accord? Ou une dette. Donc s'il y a une dette, on doit régler cette dette-là en priorité après s'être occupé du mort, du corps du mort. Et puis il dit à Ali que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglé la dette avant d'honorer le legs testamentaire. Avant d'honorer le testament de la personne, il a honoré la dette de la personne. D'accord? Donc on voit que la dette, elle est prioritaire au testament. Donc le hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Mais dans sa chaîne de transmission, il y a un certain Al-Harith Al-Awar, qui est un narrateur qui est faible, mais Ibn Hajar, rahimahullah, il dit, malgré sa faiblesse, il dit, les savants sont unanimes sur ce qu'il a dit ici dans le hadith, qui est que on doit régler les dettes avant même le testament, avant même le legs testamentaire laissé par le défunt. Taïeb. Maintenant, c'est quoi Ad-Duyun, les dettes qui sont muwaffaqa? Les dettes qui sont muwaffaqa, ce sont les dettes pour lesquelles la personne a laissé un gage ou un objet. Ça, c'est les dettes muwaffaqa. Par exemple, un prêt sur gage. Hein, le système du prêt sur gage. Le système du prêt en déposant un objet en garantie du remboursement de la dette. Donc, si la personne, elle meurt avant même d'avoir remboursé sa dette et qu'elle a laissé un objet en gage, cette dette, on l'appelle muwaffaqa. Ou une personne qui a, par exemple, vendu, je sais pas moi, une voiture, par exemple, d'accord? Elle a vendu une voiture. Elle a pris les sous de la vente, mais elle est morte avant même de livrer la voiture. Elle est morte avant de livrer la voiture. Dans ce cas-là, on appelle ça, cette dette, on l'appelle une dette qui est muwaffaqa. Parce qu'elle est relative à un bien précis. Un bien précis. Voiture, maison, etc. etc. D'accord? D'ailleurs. Puis on a les dettes qui sont mursala. Une dette mursala, c'est une dette, justement, qui ne rentre pas dans cette catégorie-là. Donc la personne, elle a emprunté, par exemple, elle a emprunté 10 000 euros et elle est morte avant d'avoir remboursé. Donc cette dette, on l'appelle une dette qui est mursala. D'accord? Non. D'ailleurs. فالديون المرسلة هي الديون المتعلقة بذمة الميت وتنقسم إلى قسمين. الأول ديون لله كالحج والزكاة والكفارة والنذر، والثاني ديون للآدمي كالقرض وثمن المبيع وأجرة الدار ونحوها. Il y a plusieurs types de dettes mursala. On a deux types de dettes mursala. On a des dettes mursala, donc qui sont encore que le mort, il se doit de les régler. Mais comme il est mort, ce sont ses proches qui vont devoir utiliser son argent pour rembourser ses dettes. On a première catégorie de dettes mursala, celles qui sont relatives à Allah, des dettes envers Allah. D'accord? L'individu est mort. Elle a des dettes envers Allah, c'est-à-dire quoi? Exemple, le pèlerinage. Elle avait de quoi financièrement faire le pèlerinage. Elle était physiquement apte à faire le pèlerinage. Donc, si elle meurt avant d'avoir accompli le pèlerinage qui lui était obligatoire, eh bien, ses proches doivent faire le pèlerinage pour lui avec son argent. Avec son argent. Ça, c'est une dette qu'ils doivent remplir. Taïeb, et c'est une dette envers Allah, tabaraka ta'ala. Les dettes envers Allah telles que la zakat. Donc il devait verser la zakat, il n'a pas versé la zakat. Eh bien, on doit prendre ses sous pour verser la zakat. Al-kafara, l'expiation. Ou al-nadr, le vœu يعني le serment pieux pour Allah tabarak wa ta'ala. Et la deuxième catégorie de dette mursala, la dette envers un être humain. La dette envers un être humain, tel que l'emprunt, tel que la personne a acheté quelque chose et elle n'a pas payé encore la personne, donc elle est endettée et doit payer ce bien qu'elle a acheté, ou le loyer d'une maison par exemple, donc elle est morte avant d'avoir pu payer le loyer qu'elle devait payer. Donc ça rentre dans les dettes mursala envers les êtres humains. طيب نعم ثم إذا كان له وصية تنفذ من ثلثه للأجنبي فالوصية بعد الدين لقوله تعالى من بعد وصية أو من بعد وصية يوصين بها أو دين وتكون بثلث فأقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث وثلث كثير طيب puis dit donc après la préparation du mort l'enterrement, les frais de lavage du mort, etc. Deuxième droit, les dettes. Que les dettes soient muwathaqa ou mursala. Troisième droit, maintenant, c'est quoi? C'est el-wasiya, le legs testamentaire. On va remplir ce qu'on appelle le legs, honorer le legs testamentaire que le mort veut faire. D'accord? Et cela avant même que les héritiers se partagent l'héritage. À condition que ce legs testamentaire ne dépasse pas le tiers de ce qu'il laisse, ça c'est une règle, qui ne dépasse pas le tiers de ce qu'il laisse, et qu'il ne soit pas fait pour quelqu'un qui hérite déjà de la personne. Donc il soit fait pour quelqu'un qui n'hérite pas de la personne. On peut dire un ajnabi, un étranger de la personne. Il ne fait pas partie des héritiers, de ses héritiers. Donc le testament se fait après le remboursement de la dette. En vertu de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, après un testament qu'elles ont fait, ou une dette. Ça veut dire que s'il y a une dette, on doit remplir la dette avant le testament. On doit honorer la dette avant le testament. Et ce testament-là, ce legs testamentaire, doit être au maximum le tiers de ce que la personne laisse. Donc si la personne a laissé par exemple 30 000 euros, elle n'aura le droit de donner que 10 000 euros, pas plus. Et les 20 000 euros qui restent sera pour les héritiers. D'accord ? Donc Allah tabaraka wa ta'ala préserve ici quand même le droit des héritiers. Le défunt n'a pas le droit de donner en legs testamentaire la totalité de son argent. Maximum le tiers. Au moins. D'accord ? Et cela donc par rapport au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Al-thuluth wa thuluth kafir ». Le prophète il a permis de donner le tiers et il dit « Et le tiers c'est beaucoup ». Et le tiers, c'est déjà beaucoup. Naam. Taïe. Fahada yushtaratu fil wasiya al jaiza shartan. En takuna bi thuluthi fa'aqal, wa thani en takuna bi ghayri warith. Donc deux conditions pour que le legs testamentaire soit valide et exécuté. Première condition qui ne dépasse pas le tiers. Donc il soit au maximum le tiers de l'héritage ou moins. Et seconde condition, qu'il soit donné à quelqu'un qui n'est pas héritier ou qui n'hérite pas la personne. On n'a pas le droit de léguer quelque chose dans son testament pour quelqu'un qui hérite déjà, qui a droit déjà à une part d'héritage. Taïe ? Naam. Thumma al-baqi lil warathati al-madhkurin wallahu a'lam. أي ما تبقى من التركة بعد مؤن التجهيز والدين والوصية يقسم بين الورثة حسب ما بينه الله تعالى. نعم. Et enfin, une fois qu'on a utilisé l'argent pour s'occuper du corps, une fois qu'on a remboursé les dettes, une fois qu'on a honoré les testaments, eh bien, le reste ira aux héritiers. Là, à ce moment-là, seulement à ce moment-là et pas avant, les héritiers pourront se partager donc ce qu'il reste parmi les héritiers que l'on a mentionnés depuis le début de ce chapitre. D'accord ? Naam. Donc en fonction bien sûr de ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a donné, a réservé à chacun de ces personnes. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihada inshallah ta'ala. On arrête là bi'idhnillah. Et on terminera ce chapitre donc lundi prochain qui est le chapitre de l'héritage. بارك الله فيكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.